A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
J'avais vraiment des cloisons étanches. J'avais ma vie familiale à la maison avec une femme qu'on s'aimait bien, on avait des enfants et un groupe d'amis. Il y avait cette espèce d'appendice qui était une vie nocturne lorsque j'étais seul. Ça représentait une partie très petite de ma vie et qui restait parfaitement cachée. Qui me permettait d'assouvir des pulsions sexuelles vis-à-vis des garçons.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques.
Salut.
Comment ça va ?
Très bien.
Jean-Jacques, tu m'as envoyé un mail avant le confinement, donc je crois qu'il y a un an et demi à peu près.
C'est ça.
Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu m'avais envoyé ce mail à l'époque. C'était à la fois un mail de merci et en même temps, je sentais que tu avais besoin de me raconter un petit peu ton histoire, tu vois.
Je crois que je te l'ai envoyé après avoir entendu le podcast... De deux garçons qui adoptaient un bébé.
En GPA, c'est ça ?
Oui.
Ouais, c'est ça, ok.
Et ça m'avait ému. Donc j'ai eu envie de t'écrire. Voilà.
Mais t'as pas fait que m'écrire.
Non, mais j'ai. Disons que ça s'est fait au moment où je commençais à m'assumer. Voilà, donc j'avais besoin de le dire.
Et alors c'est marrant parce que moi j'ai senti dans... Alors je sais pas trop si tu l'as fait inconsciemment, mais j'ai senti dans ton mail, et t'es pas le premier qui fait ça, souvent des mecs m'écrivent en me racontant un peu leurs histoires, mais en n'osant pas venir dire, en fait, si ça t'intéresse, j'adorerais venir parler dans ton micro. Et donc c'est un peu à moi de faire le premier pas, tu vois, à dire,
en fait, mais si c'est ça t'intéresse. Exactement ça.
Donc j'ai lu ton histoire et... En fait, ça m'a à la fois ému et je me suis aussi posé plein de questions parce que ton histoire est quand même particulière. Je ne sais pas si elle est à ce point-là particulière, mais c'est, en tout cas, ce n'est pas une voix, ce n'est pas une parole qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias et encore et moins dans les podcasts, tu vois. Donc, je suis très heureux que tu aies accepté de venir ici un an et demi plus tard. On va parler de ton histoire de daron, mais on va aussi, à travers ton histoire de daron, parler de ton histoire particulière, de ton histoire personnelle. On pourrait commencer peut-être par tu te présentes ? Tu t'appelles Jean-Jacques ?
Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 74 ans. Quand je le dis comme ça, ça me paraît très vieux. J'ai été marié, je suis en cours de divorce, j'ai 3 enfants adultes. Le plus jeune a 40 ans. Et je pense que je suis homosexuel depuis tout petit. Et je l'ai caché pendant 45 ans. 50 ans.
Tu l'as caché à...
Je l'ai caché à tout le monde et à moi-même aussi, d'ailleurs.
Mais à toi-même aussi.
J'ai attendu assez tard pour assumer ça, mais c'était dans une deuxième vie cachée.
Wow.
Donc j'avais deux vies parallèles, complètement étanches l'une avec l'autre. Ma vie de père de famille, marié, homme d'affaires, directeur export. Et puis, d'un autre côté, j'avais ma vie homosexuelle cachée. Et ça a duré 30 ans.
Je crois que cet épisode va être un peu particulier parce que, tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de mecs, où je fais parler des mecs de leur rapport à leur masculinité, en fait. C'est quoi pour toi être un homme? Et je crois que ton épisode à toi va se situer entre les deux, en fait, parce que j'ai l'impression que ton histoire de daron, elle est aussi mêlée avec ton histoire de mec.
Et, tout à fait.
Et ton homosexualité, comme tu disais, que tu savais depuis très longtemps et que tu t'étais caché pendant des années et des années. Tu vas aussi me raconter ta vie actuelle parce que je ne sais pas comment, enfin tu vois comment tes enfants par exemple ont pris
très mal
cette homosexualité. tu vas raconter tout ça. Mais en fait, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer parce que 74 ans, écoute, t'as l'âge de mon père, tu vois. J'imagine à quel point quand t'es gamin, donc t'es né en 46. Un an plus vieux que mon père. J'imagine à quel point quand t'es né en 46, savoir que depuis que t'es tout gamin, que t'es homosexuel, ça doit pas être un truc évident à gérer, quoi. T'as des souvenirs de ça, toi, d'ailleurs?
Très, très clair. Ouais. Très bien. J'ai des souvenirs. Je crois que j'étais. Le plus vieux souvenir, c'est en sixième. En sixième, donc j'étais avec un copain qui s'appelait François. on s'est tripoté, on s'est embrassé. C'était en allant à la piscine de la Jonquière. Donc, il y avait très peu de piscines à l'époque et on prenait le métro du lycée pour aller à la piscine. C'était la seule piscine du 17e. Il y avait celle-là, puis il y avait Molitor dans le 16e, et c'était à peu près tout, je pense. Ça a commencé dans la cabine, quand on changeait. Et d'un autre côté, j'avais des sœurs dont j'avais pas de problème avec la nudité féminine, qui pour moi était quelque chose de parfaitement inintéressant, on va dire. Et puis j'ai été scout assez vite. Et puis pareil, au scout, l'intimité, au scout, on vit tous sous la même tente, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je savais que j'étais attiré par les garçons à, je sais pas, 11-12 ans, quoi.
Ok, parce que.
Mais c'était pas visible à l'époque.
Oui, c'est ça.
C'était quelque chose qui était absolument honteux. Ce n'était pas visible. D'ailleurs, comme j'étais élevé en bon catholique, je me confessais. Et j'ai souvenir d'un abbé de l'église Saint-Ferdinand à qui je m'étais confessé. Alors ça s'appelait pudiquement le péché de pureté. Et il fallait faire la liste des types de péchés que l'on avait commis. Et il y avait un chapitre pureté. As-tu commis des péchés de pureté? Alors, la réponse était oui. Et voilà, on rentrait pas dans les détails, mais j'ai souvenir qu'il me serrait contre son cœur quand même. En me disant que c'était pas bien.
Mais t'avais quand même. Comment dire, t'avais pas peur de le dire déjà, de l'écrire ou en tout cas de dire que t'avais péché quoi au prêtre.
Ah ben oui, dans le phénomène de la confession, on t'explique que tu peux tout dire et de toute façon il enregistre rien et donc il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est un autre père et dit je vous salue Marie et puis après ça on est tranquille pour un mois.
comment tu fais pour grandir, toi, dans cette adolescence-là, où tu vis avec l'idée que, en fait, ton désir pour les mecs, en fait, c'est pas bien, quoi. Surtout si t'as été élevé dans la religion catho.
Eh ben, je le vis mal. J'ai appris très, très, très vite, très tôt à construire des murs entre mes différentes vies. Il y avait des choses que je faisais en secret, avec un sentiment de honte, Et puis la partie émergée de l'iceberg, qui est un petit garçon bien sous tout rapport.
Ok, mais enfin je sais pas comment ça se passait ton adolescence dans cette idée là quoi. T'arrivais quand même à avoir des copains, tu vois, tu...
Ah, j'ai des copains, et je dirais même plus, j'ai encore aujourd'hui, mon meilleur ami est un ami que j'ai connu en sixième, donc en septembre 57. Et on est toujours très proches, on est comme deux frères. Et quand je lui ai fait mon coming out, il y a un an et demi, il m'a dit, je suis pas surpris.
Waouh. T'as fait ton coming out à ton meilleur ami il y a un an et demi.
Oui, et je lui ai présenté Benoît.
Ton nouveau chéri, donc, dont on parlera un peu après. Waouh, ok. Très bien.
Il m'a dit, je suis pas surpris.
Putain, c'est ouf, vraiment. Et toi, pendant tout ce temps-là, t'avais vraiment ce truc où, bah, vis-à-vis de ton meilleur ami, bah, tu jouais au mec hétéro, c'est ça? Comment tu faisais?
Ah ben, j'avais pas besoin de jouer. J'étais marié, père de famille. Nos femmes s'aiment bien. Nos enfants se connaissent. Enfin, bon, il y a jamais eu aucune ombre à ce tableau-là.
Il y a un moment donné où, dans ta vie, t'as un peu pas le souvenir où tu t'es dit, OK, faut vraiment que je sépare les deux et que j'ai une vie.
Non, je crois que ça s'est fait automatiquement et instinctivement quand j'étais ado.
OK. Donc tu décides de te marier, de rencontrer ta femme actuelle. Enfin,
je me suis marié parce que je suis très honnêtement et très sincèrement tombé amoureux d'elle. Mais c'est vrai que je recherchais une fille parce que je cherchais à me guérir de ce que je considérais comme une tare, un défaut, un peu comme si j'avais été gaucher, que j'essaye à toute force d'écrire de la main droite, quoi.
Bah d'ailleurs, à l'époque, on obligeait les gamins gauchers à écrire de la main droite. Hein.
Oui, oui, oui.
Ok. Donc, ouais, t'as vraiment grandi avec ce truc de j'ai ce défaut-là, il faut que je fasse en sorte de le guérir, et peut-être que le meilleur moyen de le guérir, c'est avant tout de trouver une fille dont je vais tomber amoureux, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ça s'est fait de manière, je dirais, presque naturelle. Pour résumer, je suis parti au service militaire après 68. Je suis parti en coopération à Madagascar. Et là, il y avait déjà des coopérants dans le collège où j'étais, dont un couple qui j'étais très proche et très, très intime. Et puis, quand on est revenu en France... je suis allé les voir, ils habitaient Quimper, je suis allé les voir, et j'ai fait la connaissance de la sœur de l'ami, et puis je suis tombé amoureux d'elle.
Ok. Tu disais que tu avais fait mai 68, c'est ça?
Oui.
Donc tu étais dans ce mouvement justement de libération sexuelle, etc.
Absolument.
Comment tu l'as vécu?
Je l'ai vécu de manière un peu extérieure. J'ai pas été vraiment dans les manifestations une fois ou deux, si. Mais on suivait ça à la radio surtout. Et bon, j'habitais pas dans le quartier latin. Il y avait plus d'autobus, il y avait plus de métro, il y avait plus d'électricité, il y avait plus de gaz.
Mais t'étais parisien, ceci dit, donc t'étais. Enfin, tu vois, je me disais peut-être que t'étais au cœur du truc, quoi. Mais...
Oui, pas vraiment.
Ok.
Pas vraiment. Je sais que j'ai choisi mon camp de manière délibérée le jour de la grande manifestation des gens de droite aux Champs-Élysées. Et là, j'ai trouvé ça odieux. Et donc, je me suis dit, oh, bah, si je trouve que c'est odieux, ça veut dire que je suis de l'autre côté, quoi.
Ok. C'était quoi cette grande manifestation?
Eh bien, après la disparition et la réapparition de De Gaulle, qui était parti à Baden-Baden s'assurer du soutien de l'armée, à l'initiative d'André Malraux, tout le peuple de droite, c'est-à-dire 16e, 17e, 8e arrondissement, ont défilé de l'Assemblée nationale à l'Étoile. Et c'était un peu le... C'était la France bourgeoise face au péril rouge. Et j'avais trouvé ça absolument insupportable.
Ok. Donc là, tu t'es dit, ok, si je suis pas avec eux, je suis contre eux.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est aussi une bonne façon parfois de se situer quand tu sais pas.
Oui, il faut dire que j'habitais dans le très chic 17e, dans la partie chic du 17e, et j'allais au lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Donc tout le milieu que je fréquentais était BCBG. Et après ça, en études supérieures, moi j'étais à Subdeco. L'école supérieure de commerce de Paris, c'est pas non plus un repère de gauchistes. Par exemple, j'étais de toute l'école, j'étais le seul à aller à l'école en vélo. Les autres, ils avaient déjà des voitures et pas n'importe quoi. J'avais un copain de classe qui avait une Jaguar type E.
Ah oui.
Offerte pour ses 18 ans par son grand-père. Voilà. Donc, et le seul, le vrai copain que j'avais fait à Subdeco était un type qui était hémiplégique, qui était en fauteuil roulant, avec qui je suis devenu très pote. Et lui aussi, il n'était pas du tout dans le schéma des élèves de l'ESCP. Il est devenu manager de Claude Nougaro après.
Ah ouais. ça devait être une chouette vie, manager oui. de Claude Nougaro. Ok. Pour revenir un peu à ta vie, tu rencontres cette personne qui allait devenir ta femme pendant tes études, c'est ça ? Au retour de ton service militaire.
Au retour de mon service militaire, oui.
Et tu te dis, bah, let's go, faisons des enfants, assez rapidement, ou comment naît l'idée de vouloir faire des enfants ?
Mais j'ai toujours adoré les gosses.
Okay.
Donc j'avais toujours dans l'idée d'avoir des enfants. Et quand on s'est mariés, on avait tous les deux 30 ans, on n'était plus des gamins, et bon, assez vite, on a eu... Une fille, deux filles et un garçon, quoi.
Vous êtes mariés assez tard pour l'époque.
Oui.
Non, c'est ça.
Oui. Et on s'est mariés de manière un peu non conventionnelle par rapport à la Bretagne.
Comment ça? Ça veut dire quoi?
Ben, c'était pas un mariage traditionnel. D'abord, c'était la première fois pour la famille bretonne de ma femme, c'était la première fois qu'il n'y avait pas une table où on est assis. On avait fait dans une salle de restaurant, on a mis des petites tables et puis les gens étaient par groupe de 6, complètement au hasard. On a fait exprès de pas placer les gens pour que les gens se mélangent. Et puis il y avait un buffet au fond de la salle et puis chacun est allé se servir. Donc c'était complètement inhabituel pour les gens. Et puis d'abord, c'était nous qui avions tout organisé. On avait invité la famille proche et quelques amis, et puis c'est tout.
Ok.
Alors qu'en Bretagne, en général, on rassemblait le banc et l'arrière-banc de toutes les connaissances. Un mariage normal, traditionnel, il y avait 500 personnes, quoi.
Oui, j'imagine. Et toi, pendant toutes ces années-là, entre ton adolescence et tes 30 ans où tu te maries, comment ça se passe, ton homosexualité? Tu la mets dans un coin? Tu la refoules pour le coup?
Je l'ai vraiment écrasée dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Avec un énorme sentiment de culpabilité à chaque fois. Ça m'empêchait pas de fantasmer, mais j'étais jamais passé à l'acte.
Oui, donc ça, oui, c'est ça. Ça, c'était de l'ordre du fantasme pour le coup.
Complètement.
Ok, d'accord. Comment vient l'envie d'enfant?
Ah ben l'envie d'enfant, elle était là avant même que je me marie. Ouais. Donc on a eu d'abord un premier bébé qui était une fille qui s'appelle Anne. La première nuit où ma femme est rentrée de la clinique, le bébé s'est mis à pleurer au milieu de la nuit et elle m'a vilé un coup dans les fesses en disant mais moi j'assure le jour, t'assures la nuit. Et donc, je me suis retrouvé à mettre du caca partout sur les portes, les poignées de porte, et changer ma fille qui en avait jusque dans les narines. Et puis, j'ai appris à langer un bébé, donner un biberon, faire chauffer le biberon, le donner, attendre sans secouer qu'on ait fait le petit rot, et puis recoucher, et me rendre compte que l'opération couche-biberon, ça prenait en fait une bonne heure.
Chaque fois,
ouais. Et donc, j'arrivais au bureau avec les petits yeux, mais c'était pas grave.
C'était une vraie volonté de ta part de participer à l'éducation de tes enfants. J'avais
complètement.
Tu sais, j'ai interviewé un mec pareil de 70 ans qui racontait que lui, pour le coup, il était passé à côté de tout la petite enfance, tu vois, parce que ça l'intéressait pas et qui partait du principe que, à l'époque, puis d'ailleurs mes parents c'était un peu pareil, tout le jeune âge en fait, c'est pour la maman, quoi, tu vois.
Oui, oui. Mon père était comme ça. Ouais. J'ai pas souvenir d'avoir jamais eu une seule conversation avec mon père. Jamais.
De toute ta vie, tu veux
de
dire?
Toute ma vie.
Une conversation.
Une conversation autre que passe-moi le sel et va chercher les glaçons dans le frigo.
Mais rien. Une relation inexistante, en gros.
Absence totale de relation. Mes parents étaient divorcés, donc j'allais chercher le chèque de pension alimentaire tous les mois. En plus de ça, si j'y allais pas le chercher, ma mère me faisait comprendre que si on n'avait rien à bouffer, c'était un peu de ma faute. Donc il fallait que j'aille chercher le chèque de pension alimentaire. Et ma belle-mère était absolument charmante et adorable. Et à chaque fois, j'étais invité à déjeuner ou à dîner. Et donc ça se passait très bien. Mais quoi qu'elle fasse. Quand je sortais de chez mon père, j'allais vomir dans le caniveau.
Oh là là. Parce que le stress, c'est ça?
Ouais. Et donc, j'ai jamais eu aucun contact avec lui, sauf des contacts médicaux. Et à chaque fois, il était d'une très grande brutalité.
Ok. Et j'imagine que tu t'es dit en devenant toi papa que c'était pas un truc que tu voulais recréer,
voilà.
C'est ça ?
Et que je voulais pas revivre ça ni le faire revivre à mes enfants.
D'accord. Ok. Donc de base, délibérément tu t'es dit ok, je vais être un papa aimant et un papa cool et qui va m'occuper, va aussi s'occuper des enfants, quoi.
Ouais, je crois que j'étais assez cool. Un moment quand mon fils devait avoir une dizaine d'années. On a reçu à la maison un copain du village de Bretagne où on allait passer les vacances. Et à un moment, je me suis mis à gueuler parce qu'il avait fait je ne sais plus quelle connerie. Mon fils a dit à son copain, « Laisse, tu vas voir, il est cool. Il aboie, mais il ne mord pas. »
C'était toi donc, c'est ça?
Voilà.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment se passent tes premières est-ce que il y a à un moment donné comment se passe la première fois où tu rencontres ta fille? Comment se passe l'accouchement? Je me demande, c'était comment les accouchements il y a quoi alors 40
Ben, elle est née en 77.
Ah ben, à mon âge. les papas étaient admis dans les salles d'accouchement à l'époque ou pas?
C'était à l'hôpital Foch. J'ai voulu assister à l'accouchement et la sage-femme m'a foutu dehors. En disant que c'était pas mon business. Donc j'ai attendu, je voyais tout par la vitre, à travers la vitre. et puis quand le bébé est né, donc je suis rentré dans la salle et
Comment tu vis le fait qu'on te dise c'est pas ton business, quoi? Moi, je crois que je serais devenu fou, vraiment.
Ben, ça, c'est pour la deuxième, j'étais là.
Ouais. C'était un peu plus accepté.
Oui, oui, oui. La deuxième est née en 79 et c'était là, c'était tout à fait accepté.
En deux ans de temps, la société a
changé. C'est surtout qu'elle n'est pas née à l'hôpital.
Ah oui, c'est vrai.
Elle est née dans une clinique. Et le fiston, c'était pareil.
Ok. Mais ouais, comment tu vis, toi, le fait de ne pas avoir assisté, ou d'avoir assisté, enfin, tu vois, qu'on te dise, c'est pas ton business, quoi.
Ben, j'avais assez mal vécu sur le coup, mais j'ai ce caractère qui fait que on me fait avaler une couleuvre, finalement j'avale.
Ok.
J'avale en me disant dans mon fort intérieur, ouais, cause toujours, tu. De toute façon, je ferai ce que je veux.
Ok.
J'ai un peu toujours fait ça.
Comment ça se passe, cette vie dont tu racontais juste avant qu'on enregistre, que tu as été beaucoup sur les routes, c'est ça? C'était...
Alors, j'ai commencé à travailler chez Fiat,
ouais.
Mais Fiat véhicule industriel, c'est-à-dire en fait les camions uniques. Et ils m'ont envoyé en province. Et donc je me suis mis à circuler un peu absolument partout en France et dans le nord de l'Italie. Parce qu'il a fallu que j'aille plusieurs fois à Turin pour chercher des pièces ou des choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé en France. Et j'étais basé à Marseille pendant 6 mois. Donc, j'avais Marseille et Lyon, d'ailleurs. Et puis, après ça, j'avais eu l'expérience de vivre mon service militaire à Madagascar. Donc j'avais déjà quitté le nid, le charnier natal. Je revenais souvent à Paris, mais je ne me sentais déjà plus à la maison. J'ai beaucoup circulé en France d'abord, et puis après ça j'ai eu un job au service export, et donc je me suis mis à circuler un peu partout dans le monde.
Et comment, ma question c'était plutôt comment tu faisais pour faire en sorte d'allier à la fois ta vie de papa et ta vie de cadre qui se baladait sur les routes, quoi.
Eh ben, papa disparaissait le lundi matin et réapparaissait le vendredi soir. Mais c'est également le sort de tous les VRP et de tous les gens qui se déplacent pour leur boulot, quoi. Donc en ce sens, ça n'avait rien d'exceptionnel. Et je pense que ma femme a dû le vivre de manière assez assez cool, parce que d'abord son papa faisait ça, son papa était VRP, que j'ai jamais connu, donc il disparaissait le lundi matin et réapparaissait le vendredi soir. Sauf que ce qu'elle en racontait, c'est qu'il réapparaissait le vendredi soir et qu'il faisait le père Fouettard. Et moi, j'ai essayé d'être justement le papa cool. Mes enfants m'ont dit, après coup, beaucoup plus tard, qu'il y a eu une période où j'étais absolument odieux le week-end. Mais ça, je pense que c'était plus dû au stress du boulot plutôt qu'une volonté délibérée. Parce que la fin de ma vie professionnelle a été terriblement stressée. Mais ça faisait partie de... C'était ma deuxième vie. J'avais 3 vies, en fait. J'avais la vie de père de famille, bon papa, père de scout, le week-end. J'avais la vie de directeur export du lundi au vendredi soir. Et quand j'étais en voyage, le soir... Après le dîner, quand j'étais seul à Amsterdam, à New York, à Copenhague ou à Berlin, là, je suis redevenu gay.
Mais ça, c'est venu un peu plus tard, c'est ça, dans ta vie?
C'est venu
quand
un peu plus...
40, tu disais 45 ans tout à l'heure, c'est ça?
Non, ça a dû revenir vers 40 ans.
Ok, vers 40
ouais,
ans.
Ouais.
Donc, ok.
Dans le secret le plus total.
Ouais, j'allais te dire, c'est quoi le moment où, parce que tu disais que tu t'étais toi-même aussi caché ton homosexualité depuis ton adolescence,
oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné où tu te dis, ok, en fait, peut-être que je peux être ça aussi, quoi.
Non. Je pourrais pas vraiment dire, il n'y avait pas Internet, il y avait... Je n'ai pas vraiment de souvenir comment s'est fait le déclic. Je sais que c'était à Amsterdam, où je me suis retrouvé dans un quartier d'Amsterdam qui s'appelle Leidseplein. C'est en plein centre-ville et c'est le coin gay. À l'époque, ça l'était, je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. Et je me suis retrouvé dans un bar où il n'y avait que des mecs. Et puis c'est là où j'ai dû être... c'est moi qui ai dragué? Est-ce que j'ai été dragué? Je n'en ai pas de souvenir. Je sais que, par contre, c'était à Amsterdam, dans ce coin-là, que j'ai découvert le sauna gay. Et...
Comment tu vis ça à 40 balais? Vraiment, je crois que j'arrive... J'essaie de me projeter dans ce truc de... Ok, en fait, pendant toutes ces années... j'avais ce truc en moi que j'ai, comme tu dis, mis dans un mouchoir et remis le plus loin possible, quoi, dans ta poche. Et que, à 40 ans, t'es déjà en train d'entamer ce qu'on appelle souvent la deuxième partie de vie, quoi.
Oui.
C'est le moment où t'as, je sais pas, comment tu vis ça, toi?
Difficile de répondre. J'avais vraiment, des cloisons étanches. Donc, j'avais ma vie familiale à la maison, avec une femme avec qui je m'entendais bien, on s'aimait bien, on avait des enfants, et un groupe d'amis. J'avais une vie en surface parfaitement normale. J'avais une carrière professionnelle avec des hauts et des bas, avec deux boîtes qui ont été rachetées successivement. Et donc, à chaque fois, c'est le service export qui disparaît. Donc, à chaque fois, j'ai été viré aimablement, mais viré quand même. Et puis, donc, j'avais ma vie professionnelle qui était une boîte. Et il y avait une cloison étanche entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et puis, il y avait cette espèce d'appendice qui était une vie nocturne. Lorsque j'étais seul, ou bien seul dans une ville étrangère, faut dire que je connais très bien Amsterdam, je connais très bien Copenhague, je connais très bien Francfort ou Berlin, New York, San Francisco. Ce sont des villes où je me sens un peu chez moi, quoi. Ça représentait une partie très petite de ma vie et qui restait parfaitement cachée, qui me permettait d'assouvir des pulsions sexuelles vis-à-vis des garçons. Et d'ailleurs, je n'ai jamais, à aucun moment, eu une relation suivie avec un mec. C'est jamais arrivé. Mmh. Et quand par hasard j'étais à Paris, seul à Paris, soit pendant l'été, parce que toute la famille partait en Bretagne, et donc je me retrouvais parfois seul à Paris. Là, j'ai découvert qu'à Paris, il y avait également des coins gays, soit de drague, comme les Tuileries ou le Trocadéro, soit des saunas gays dans le quartier de la Gare du Nord ou ailleurs.
Et pendant ce temps-là, t'en parles jamais à ta femme?
J'en ai jamais parlé à personne. Personne, personne, personne. Donc il n'y avait absolument personne qui aurait pu être au courant. Et puis il y a eu un déclic. J'ai une sœur qui est mère célibataire. J'adore mon neveu, qui est un peu, en quelque sorte, mon fils aîné. Il a 10 ans de plus que mes enfants. Il vit aux États-Unis. Et quand il est parti à New York, il a fait son coming out, lui. Donc en 1900, aux environs 2000, on va dire. Mmh. Je sais pas, entre 95 et 2000. Et là, je lui ai écrit une longue lettre pour lui dire qu'il n'était pas seul. Et
donc une lettre de soutien. Et oui, en fait, dans sa lettre, il disait qu'il ne voulait pas revenir pour faire son service militaire et que il se condamnait à ne plus jamais remettre les pieds en France. Dans la lettre qu'il a écrite à sa mère. Et je lui ai, moi, écrit une lettre pour lui dire « C'est une connerie, fais pas ça, reviens, fais tes 3 jours, et pendant ces 3 jours à l'armée, dis-leur que tu es homosexuel et que tu veux pas faire ton service militaire. Et tu verras que tu seras dispensé. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors du coup, on est devenus très, très complices, tous les deux. D'accord. Mais il était la seule personne au monde à être au courant.
Tu veux dire que même lui, il n'a pas dit à sa mère
non.
que c'était entre vous aussi, quoi.
C'était entre nous, c'était notre secret.
Ok.
Il ne l'a pas dit, et il ne l'a jamais dit, et donc c'est... Aujourd'hui, ma sœur, je suis très très complice avec ma sœur, mais elle ne l'a pas appris par son fils, elle l'a appris par moi.
Ok. Qu'est-ce qui fait à l'époque que tu le dis à son fils, tu vois, et pas à ta sœur? Tu penses que si tu le dis à ta sœur va pas bien le prendre, c'est ça?
Non, j'avais pas envie de le dire à personne.
Ok, c'était ton truc.
Ça restait le secret absolu. Ça restait un secret absolu. Il habitait New York, hein. Il était donc moi j'étais en plus j'étais le seul de la famille qui aille régulièrement aux États-Unis. Il était fauché, donc il revenait pas en France à ce moment-là. Et donc je faisais un peu le lien entre Paris et New York. Et ça a été, il n'y avait pas de trou dans l'étanchéité du mur.
Ok, je vois bien. Je vois l'idée.
Le mur restait parfaitement étanche.
Qu'est-ce qui t'a donc décidé un jour de venir mettre un coup de perceuse dans le mur?
C'est la connaissance du copain. Non, je dis des conneries. C'est quand j'ai attrapé le sida.
C'était quoi, 90, c'est ça?
Non, c'était en 2005.
Ok, d'accord.
C'est au moment où j'ai cessé de travailler, donc j'étais... ma femme était en Bretagne, les enfants étaient partis déjà un peu partout. Mon fils habite Berlin, hein, aujourd'hui. J'ai une fille à Lille, une fille à Paris et un fils à Berlin. Et j'ai attrapé le sida. Donc j'ai été très malade. Et j'ai été soigné à Saint-Louis, j'ai été admirablement soigné, avec une volonté féroce de m'en sortir. Et je m'en suis d'ailleurs parfaitement sorti. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace. Très vite, le toubib qui me suivait m'a dit « J'aimerais que tous mes malades soient comme vous. » Donc je me suis rétabli très vite. Et là, ayant le sida avec hospitalisation et puis des obligations de soins pratiquement tous les jours, j'ai bien été obligé de le dire. Et donc là, j'ai fait un coming out brutal par téléphone avec ma femme. Et donc les enfants l'ont su très vite. Et ma femme et mes meilleurs amis. Donc je l'ai annoncé à droite, à gauche. Et c'est elle qui m'a dit, en bonne catholique hypocrite, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas que ça se sache. Donc officiellement, j'avais un cancer. Un cancer de la peau ou je ne sais quoi. Mais donc officiellement, c'était un cancer. Mais en fait, bon, je pense que ça n'a pas fait l'illusion. D'autant plus que ce que je prenais était une trithérapie. Et que
oui.
Le mot est quand même très, très marqué. Et bon, c'est très bien. Aujourd'hui, je suis en parfaite santé. Mais je continue de prendre un médicament quotidien. Et je prends ma petite pilule tous les matins, c'est très bien comme ça.
Hein. Ouais. Et tu l'as parfilé à ta femme, le sida?
Alors, elle était folle de rage, elle a fait un test.
Ouais.
Mais en fait, non. Elle était négative. Mais ça faisait déjà longtemps qu'on couchait plus ensemble.
Ah, ok. Oui. Donc ça... Tu la mettais pas en danger quelque part?
Non, pas vraiment. Sauf que je ne sais pas quand je l'ai attrapé. Donc c'était bien qu'elle fasse le test pour vérifier, mais moi j'avais aucun doute sur le sur la négativité de son test.
Ok.
Et par contre, j'ai été après ça, j'ai été extrêmement prudent avec tous les garçons que j'ai pu rencontrer, jusqu'à ce que je rencontre mon copain actuel et que les Toubis me confirment que j'étais absolument inoffensif.
Ok.
Donc on n'a plus à prendre de précautions particulières.
Parle-moi de la réaction de tes enfants, parce que tu disais tout à l'heure, très vite, qu'ils n'avaient pas bien pris du tout.
Ma fille, ma plus jeune fille, m'a traité de pédophile pervers.
Quoi ?
Parce qu'il était très jeune. Au moment où je l'ai connu, il avait 17 ans.
Ah non, mais moi je te parlais de... On va reparler de ça après, mais moi je te parlais du moment où tu leur dis que t'es homo.
J'ai pas eu de réaction particulière de la part des filles.
Ok, d'accord.
Mon fils m'a simplement dit, ça t'empêche pas de... T'es papa, tu seras toujours papa, quoi, tu seras toujours okay. Mon papa.
Oui, d'accord, c'est pas sur ce...
Non, la réaction négative... Du moins de mes enfants, du moins les deux plus jeunes, c'est par rapport à mon copain actuel.
Que tu as rencontré il y a quelques années ?
Ben il va avoir 22 ans l'année prochaine, et donc j'ai rencontré, il venait d'avoir 17 ans.
Ok, donc, et toi tu avais 69
Non, 72, 70. J'ai 55 ans de plus que lui.
Ah ok, d'accord. Donc effectivement, ça fait jaser, j'imagine.
Ça fait jaser. Et surtout, les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent qu'à 75 ans, on puisse être attiré par un très jeune. C'est là où justement ma fille me traite de pervers pédophile. Mais les gens ont du mal à comprendre qu'un garçon de 17 ans puisse être attiré par un monsieur 70. C'est comme ça. Je l'explique pas plus. Ça fait partie des mystères de la nature pour moi.
Tu me disais un truc parce que je t'avoue que moi aussi, mon premier, mais je crois comme tout le monde, quoi. Tu vois, le premier truc, c'est de faire. Ok, c'est étrange. Et bon, alors moi, je juge pas. Tu vois, j'ai plutôt envie de te poser des questions.
Oui.
L'un des trucs que tu me disais, c'était que pour le coup, il t'avait éduqué entre guillemets. Je sais plus comment tu l'as formulé, mais un truc du genre, il m'a appris à être gay, en fait, ou à assumer d'être gay, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que quand on est ensemble, le fait que maintenant je me sens plus libre, j'ai l'impression d'avoir un gigantesque poids en moins sur la poitrine. Et... on se balade dans la rue, on se prend par la main. Je me sens absolument pas obligé de me cacher. Et du fait que je me sente libéré de ce côté-là, ça m'a donné envie de me libérer encore plus, quoi. Et maintenant, je fais partie des gens qui disent je suis gay, j'en suis fier, quoi.
Comment tu l'as rencontré ?
Sur un site gay.
Oui. Étonnant. Et tes deux autres enfants, qu'est-ce qu'ils en ont dit de cette relation ?
Et ils n'ont pas envie de le voir. Ils veulent pas le rencontrer. Cet été, on a vécu quelque chose de très amusant. Moi, j'ai trouvé très amusant. Ma fille, sûrement beaucoup moins. Mon neveu américain, qui est marié avec un monsieur, donc lui, il assume.
Il a embrassé la vie.
Ah, complètement. Ouais. Bon, en plus, c'est ça. Ils vivent en Californie. Il a une belle situation. Donc, il revient à Paris après une longue absence parce que les Américains n'étaient pas bienvenus en France à cause du Covid. Et réciproquement. Et puis, du coup. Moi, j'avais envie qu'il rencontre mon copain.
Ouais.
Et on va dîner ensemble dans le Marais.
Le cliché.
cliché ou pas cliché, je te recommande le restaurant. Il s'appelle Les Philosophes. Il est
C'est noté. Voilà. Non, merci. C'était une vanne, pardon.
Donc, on a dîné. Et puis, après le dîner, je lui ai dit, bah, écoute, la voiture est au parking à l'hôtel de ville. C'est assez loin. On va marcher tranquillement à pied jusqu'au parking. Et puis, je te dépose chez toi. Il a un petit appartement en banlieue nord. Je te dépose chez toi. Et au milieu de la foule estivale, au mois de juillet, il faisait beau, il faisait chaud, et la foule danse qui se promène autour du Forum des Halles. On a buté, littéralement buté, sur ma fille qui sortait avec des copains. Et mon neveu ne savait pas que ma fille ne connaissait pas mon copain. Et donc...
Vous n'en avez pas parlé ensemble avec ton neveu ?
Non.
Ok.
Non, bon, la conversation, t'es pas venu dessus, quoi.
Ok.
Et donc, il dit, ben, Laure, ah ben, tu connaissais pas Benoît? Ah ben, tiens, je te présente, Laure, Benoît, Laure. Et j'ai vu ma fille prendre la couleur de ton micro en l'espace de quelques secondes, et puis elle a fait une tête. Elle était juste gênée, plutôt. Donc la conversation s'est arrêtée très vite et Benoît de son côté, lui, il a rien dit, mais lui c'est un discret, c'est un taiseux, c'est un lorrain. Et donc en plus il est très timide, donc la conversation ça a pas duré, ça a duré quoi, peut-être 2 minutes notre rencontre. Et on a bavardé gentiment, on sait pas, personne s'est battu. Mais du coup elle connaît sa tête, voilà. Elle l'a vu.
Comment tu vis, toi, le fait que tes enfants, ils veulent pas avoir celui qui incarne finalement un peu cette nouvelle vie pour toi, quoi, tu vois ?
Je le vis ni mal ni bien. Je l'accepte. Je serais très heureux s'ils acceptaient de le voir et si on pouvait se retrouver quand il est à Paris. Mais comme ils veulent pas, ben, je l'accepte. Donc, finalement, je vois assez peu mes enfants. La seule qui habite à Paris, elle est journaliste, elle a 2 petits garçons de 7 et 9 ans, que j'adore et qui, je crois, aiment beaucoup leur grand-père. Je m'entends bien avec mon gendre. On n'a pas de problème particulier, mais je communique plus par email avec ma fille. Je fais des commentaires sur ses articles ou des choses comme ça. Mais elle m'invite pas particulièrement. Elle m'invite pas à venir chez eux. Cet été, ils sont venus 1 ou 2 fois chez moi parce qu'il y a la balançoire, mais que c'est dans les bois et que c'est plus agréable que Lila, mais autrement. Non, il n'y a pas vraiment de problème. Quand je suis avec Benoît, je suis avec Benoît. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Ça se fait pas en même temps. D'ailleurs, dans sa famille, à lui, toute la famille se rassemble pour Noël. Je pourrais tout à fait y participer. Par contre, dans ma famille, à moi, où toute la famille se rassemble pour Noël, je lui demanderai jamais de venir parce que je sais que même si le reste de la famille est prêt à l'accepter, mes enfants seront là et si je leur dis Benoît viens, ils viendront pas. Donc je continue à faire pour l'instant un mur, mais c'est pas un mur, c'est juste une palissade.
Comment tu vis, toi, le fait aujourd'hui de d'être en couple avec ce garçon qui pourrait être
mon petit-fils,
ton fils, mais non, même plus ton petit-fils, quoi.
Oui, il pourrait être mon petit-fils. Comment je le vis ? Je me dis tous les matins en me réveillant que j'ai beaucoup de chance, que c'est merveilleux et que j'ai beaucoup de chance, parce que c'était quand même foutument improbable. On s'influence l'un l'autre, clairement. Moi, je suis une sorte de pygmalion, je lui ouvre des horizons, je lui ouvre des portes, je lui fais découvrir des choses. Et lui me fait découvrir son monde, le monde des jeunes d'aujourd'hui, le monde des gens hyper branchés. Il passe sa vie sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur je sais pas s'il y a TikTok ou non, c'est je sais plus, c'est
TikTok. Ouais.
Non, je crois pas que c'est TikTok. C'est plutôt j'ai oublié le nom. C'est pas Insta. C'est un site où on met des photos qui disparaissent assez vite.
Ah, Snapchat ?
Snapchat, voilà. Okay. Et puis, il est passionné de photos. Donc, il fait de très belles photos. Mais il ne fait pas du tout les mêmes photos que moi. Moi, je fais des photos qui représentent quelque chose, qui représentent un paysage. Lui, il aime bien se balader dans la ville la nuit pour faire des photos d'effets de lumière. C'est presque de l'art abstrait, ce qu'il fait. Donc voilà, on a cette passion en commun qui est de faire de la photo. Et puis, lui, il adore le rap, mais il m'a fait découvrir le rap, il m'a fait découvrir des artistes de rap que j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que tu écoutes comme rap alors, par exemple ?
Eh bien, je n'écoute en fait que quand il est là ou quand il m'envoie des liens. Ça commence avec Romeo Elvis, ensuite... je suis désolé, mais avec l'âge, j'ai jamais eu beaucoup de la mémoire des noms.
C'est pas grave.
Un gars avec une queue de cheval, Nekfeu.
Et l'homme pâle.
L'homme pâle. Mm. Et puis Lil Nas X. Mm. Et puis, bon. Alors, il y en a que j'aime plus ou moins. Il y a un qui se donne un look de méchant rebeu voyou et qui est en fait un tendre. Je sais plus comment il s'appelle.
Le méchant rebeu voyou qui est en fait un tendre, je t'avoue que j'ai pas assez la culture rap.
Un normand, un gars de Normandie.
Un gars de Normandie. Bon, il y a Orelsan qui vient de Normandie, mais je crois pas que tu parles de lui.
Non. Non, mais peu importe. Bon,
je suis pas assez fort en culture rap pour savoir de qui tu parles.
Et c'est en fait, ils se donnent tous des airs de gros méchants et en fait, ce sont tous des tendres. Et leurs textes sont souvent pleins de poésie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et puis moi, je lui fais découvrir la musique baroque. La première fois que je l'ai emmené au concert. Alors, j'avais pris un concert en me disant, bon, c'est relativement facile, ça va être sympa. Il y avait un concert à la Philharmonie avec les deux premières symphonies de Beethoven, celles qu'on n'entend jamais parce qu'on entend toujours la cinquième, la septième, mais la première et la deuxième, on les entend jamais. Donc là, et puis j'avais pris des places tout en haut de la Philharmonie. Donc ils découvrent la salle qui est absolument magnifique et puis on a pu passer tout le concert la main dans la main parce que début juillet il y avait personne, le deuxième balcon était vide on va dire. Et puis le deuxième concert auquel il a assisté, et là j'avoue il m'a un peu bluffé, ma sœur découvre, il était là en juillet, et elle m'appelle dans l'après-midi pour me dire, il y a un petit concert dans une petite église syriaque, dans le quartier latin. C'est une fille inconnue qui joue des partitas de Bach pour violoncelle seule. Donc il n'y a pas de musique plus austère que les partitas de Bach pour violon ou violoncelle seule. Et je propose à Benoît, j'ai dit, il me dit oui, ça m'intéresse. Et il a adoré. Donc voilà, et puis je lui fais découvrir un peu du Handel, du Vivaldi de temps en temps. Et lui, il me fait découvrir du rap. Donc on se retrouve. Il a réussi ce tour de force de me faire aimer une série américaine, par exemple.
Il y en a quand même pas mal qui sont de qualité, quoi.
Oui, mais ce que je n'aime pas, c'est le principe de la série qui veut dire diluer au maximum l'action.
Ah oui, ok.
J'aime quand l'action est concentrée. C'est ce que j'aime dans un film d'une heure et demie, quoi.
Tu te rends bien compte que les séries, elles permettent aussi de pouvoir creuser les personnages, ce qu'un film pourrait jamais réussir à faire, tu vois.
Voilà.
La mentalité, le psyché et tout, quoi, tu vois.
Oui, donc je viens de regarder avec passion Sex Education.
Ah, yes. Et pour le coup,
j'ai adoré.
Chouette, extraordinaire représentation de la culture gay et d'une manière générale de toutes les diversités qu'il peut y avoir.
Quoi. Absolument. Ah oui, j'ai trouvé ça génial. En l'occurrence, c'est pas américain, c'est anglais.
Oui, c'est... Bah, je crois que la prod, elle est américaine, hein, mais un peu...
Enfin, tout se passe en Angleterre.
Oui, ça c'est sûr.
Ils ont tous un fort accent anglais.
L'accent british parfait.
Un accent british absolument parfait, surtout la mère d'Otis, la psy.
Quand tu vois ces... Quand tu vois ces représentations... Alors pour les gens qui n'ont jamais vu Sex Education, déjà je vous invite à regarder parce que c'est vraiment une série, je trouve, qui arrive à... Que moi j'ai regardé, tu vois, avec par exemple ma fille de 15 ans, on a bingé la saison 3 là, il y a quelques semaines quand c'est sorti. Et je trouve qu'ils arrivent à faire un truc génial, c'est qu'ils arrivent à faire de l'éducation sexuelle à travers le scénario en fait. Donc ils font de la méta-éducation sexuelle et
tout
je trouve que c'est fabuleux.
La taille n'a aucune importance.
Ben voilà, par exemple. Mais comment tu vis, toi, le fait de te dire putain, en fait. Moi, j'ai grandi à l'âge où, bah, tu vois, ma fille a ces modèles-là devant ses yeux, tu vois. Toi, t'as grandi avec un abbé qui te disait que c'était pas bien, qu'il fallait que tu guérisses, quoi.
Et en me disant ça, me serrant sur son cœur, quand même. Ouais.
Attends, quand tu dis, pourquoi tu dis ça?
Parce que, de toute évidence, je me faisais ploter.
Ah, donc c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure quand tu...
Oui, oui. Ah oui, oui. Les mains sur les fesses, c'est tout.
Les mains sur les fesses. Ok, ce serait... Excuse-moi, mais quand tu dis, on te serre, tu vois, on prend ta tête et on te met contre... C'est un geste...
Oui.
Sympa, tu vois.
Oui, oui, c'est un geste sympa.
Mais les mains sur les fesses, c'est un autre délire. Si je puis me permettre.
Voilà, non mais... C'était ça, et puis quand on la confession en face à face, c'était toujours ses mains posées sur mes cuisses, quoi.
T'as suivi dans l'actualité là le.
Mais oui, bien sûr. Je suis pas surpris. Mais en plus de ça, je vais dire, je ne l'ai jamais considéré comme une agression sexuelle. Ça me paraissait parfaitement normal et naturel. Bon, mais je. Plus tard, ado, j'ai eu un aumônier scout. Quand j'étais chef de troupe, j'ai eu un aumônier scout qui était un grand plotteur de fesses des ados. Et là, ça nous faisait carrément rigoler. On se foutait de sa gueule, quoi.
Putain. Ouais. Je sais toujours pas. Enfin, je sais pas quoi faire avec ça. Moi, ça me révulse tout simplement. Mais être 300 000 gamins depuis les années 1950, quoi. Tu vois, c'est un délire, quoi.
Mais c'est absolument. C'est colossal.
Et les mecs qui font semblant de découvrir, tu vois, de découvrir le truc, quoi. Alors que il y a eu une enquête qui est sortie début des années 90 qui montrait que c'était un grand système très bien organisé pour faire en sorte.
Et le pire, ça a été les scouts américains, et je crois que l'église américaine est encore pire que de chez nous.
Ok.
Mais
donc excuse-moi quand tu disais tout à l'heure quand tu disais
c'est un autre sujet.
Ouais ouais. Non mais quand tu disais qu'il avait serré contre sa poitrine, pour moi c'était juste. Il y avait un côté sympa et rassurant, quoi. Tu vois, j'avais pas du tout capté que derrière, tu voulais dire, en fait, il était en train de me ploter, quoi.
Ben oui.
Ok. Donc, bref, oui, pour revenir à ma question, comment tu vis, toi, le fait de pouvoir avoir. Enfin, de te dire, est-ce que ma vie aurait été différente si j'avais vécu une.
Ah, totalement. Mais je ne regrette rien, comme disait Edith Piaf, parce que je suis heureux d'avoir mes enfants. Et en plus, ils sont super réussis, intellectuellement, physiquement et moralement. Je crois que ma femme et moi, on a bien réussi l'éducation qu'on leur a donnée. Éducation, ouverture d'esprit, tolérance, sans tabou et sans préjugés, on est très contents. Moi, je suis très heureux. De les avoir. Et je me dis que si j'avais vécu mon homosexualité dès mes 18 ans, je ne me serais jamais marié et donc je n'aurais pas ces trois merveilleux exemplaires de l'espèce humaine à contempler. Mais, et qui plus est, non seulement trois, mais aujourd'hui six.
Oui, qui ont fait des enfants derrière, tu veux
ben
dire.
Ben oui. Et mes petits-enfants, j'ai quatre petits-enfants et ils sont absolument merveilleux. Et donc, d'aucune façon, je ne peux regretter quoi que ce soit. Et je dirais même, ma femme l'a accepté sans drame. Elle m'a dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on divorce. Mais ça n'a pas été plus
ça ne s'est pas fait dans le drame. Et on se quitte en bons amis et en toute, comment dirais, par consentement mutuel.
Ok.
Alors que j'ai écarté le souvenir d'un divorce complètement conflictuel de mes parents. Avec la phrase qui revenait épisodiquement, fais pas ça, tu ressembles à ton père. Je ne sais pas, la façon de manger le raisin ou de me gratter le nez, j'en sais rien, mais c'était une phrase que l'on me répétait souvent.
Ouais.
Fais pas ça, tu ressembles à ton père. Et je ne crois pas que, ma femme m'en veuille. Je crois qu'elle ne m'en veut pas d'être homosexuel. Je crois que ce dont ce qu'elle me reproche est... Et ça me paraît bien naturel, c'est d'avoir caché, d'avoir construit des murs étanches entre mes différentes vies. Je crois que c'était ça le problème. Mais plus que le fait de l'avoir trompé avec des garçons. Mais dans la mesure où j'étais jamais tombé amoureux d'un garçon, j'étais amoureux d'elle. Les garçons, c'était juste un plan cul, quoi. Sans autre conséquence. Autre conséquence que d'attraper le sida, finalement. Mais. Alors que ça fait belle lurette que. Entre nous, c'est de l'amitié. Encore une forme atténuée d'amour, mais ça reste une grande amitié. Et totalement dénuée d'agressivité. À la limite, c'est Benoît qui est plus agressif vis-à-vis de ce qu'elle représente. Et je lui dis, tu peux pas me reprocher ma vie d'avant de te connaître.
Tu veux dire que Benoît, il a du mal à comprendre que tu aies pu avoir cette vie,
ouais.
Très cachée, quoi, justement.
Lui, ce qu'il insupporte, en fait, c'est le mensonge. C'est le point sur lequel il est absolument transparent, diaphane. Il comprend pas que j'ai pu dissimuler, mentir pendant 60 ans. C'est quelque chose qui est complètement dehors de sa conception intellectuelle.
Ce qui est en soi un truc relativement cool, parce que tu te dis que quand tu nais au 21e siècle, en étant homosexuel et qu'en fait t'as plus besoin de mentir, c'est que peut-être le monde va dans le bon sens. Parce que je crois que
ça, c'est sûr.
Personne t'a obligé à mentir, quoi.
Non, mais ça me serait pas venu à l'idée.
Voilà.
On savait qu'il y avait des gens qui avaient suffisamment de notoriété pour pouvoir clamer, proclamer, exhiber leur homosexualité. Il y avait des Jean Cocteau, Jean Marais, il y avait. Jean-Louis Bory, il y avait des gens dont tout le monde savait qu'ils étaient homosexuels. Et puis ça ne dérangeait personne. Mais en ce qui me concerne, moi, même ma pomme, c'était pas disible. Je crois sincèrement que si je l'avais annoncé, proclamé ou simplement pas caché, mon patron m'aurait foutu à la porte. Même la dernière boîte où j'étais, qui est une célèbre société très, très respectablement connue dans le monde de l'agroalimentaire, le PDG, qui était quelqu'un dont j'étais assez proche finalement, dit une fois, non, mais j'ai changé d'agent aux États-Unis parce que José... s'affiche avec un homme, je peux pas garder un agent aux États-Unis qui soit ouvertement pédé quand même. Et je lui ai répondu à ce moment-là, je me souviens, on était à Houston, j'ai dit, mais je vois pas où est le problème. Il fait admirablement son boulot de représenter la boîte aux États-Unis. Le fait qu'il vive avec un monsieur, qu'est-ce que ça change? Et il me dit, mais c'est sur le plan du principe. On peut pas, quand même.
Et non, mais j'ai dit, je vous suis pas. Mais donc, je pense que si je lui avais dit, oui, mais en ce qui me concerne, moi aussi, je suis pédé, il m'aurait dit, ben, dehors. Et bah c'est un monsieur, aujourd'hui il a pris sa retraite, c'est son fils qui a repris la boîte, et qui est PDG, et que je connais très bien, moi je l'ai vu sur son petit tricycle en train de faire des ronds dans la cour, et donc on s'entend très bien, et lui il sait, et il applaudit.
Les gens le voient pas, mais en fait t'as fait une petite mimique, t'as fait un petit sourire, comme ça. On dirait que t'as 5 ans.
Oui, c'est ça. Je te dis, je rajeunis tous les jours.
Ouais.
C'est marrant parce que la première fois que je suis allé déjeuner chez ma sœur avec Benoît, elle a eu son fils américain au téléphone après, qui lui-même m'a raconté, il m'a dit, maman m'a dit, t'avais rajeuni 10 ans. Ben, c'est vrai, même plus que 10 ans. Parce que si j'avais rajeuni que 10 ans, j'aurais encore 64 ans. Non, j'ai l'impression que j'en ai 34 là.
C'est vrai.
Ouais.
T'as l'impression de vraiment revivre une deuxième vie, en fait.
Ah, complètement. Je redémarre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau.
T'as un t-shirt où il est écrit « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre ».
C'est un très beau t-shirt de la CIMAD.
C'est quoi la CIMAD ?
La CIMAD, c'est une association qui a été créée par les protestants en 1940 pour faire organiser l'accueil des réfugiés du nord et de l'est de la France qui fuyaient devant les troupes allemandes et qui aujourd'hui s'occupent essentiellement de l'accueil des migrants et des droits des étrangers en France. J'ai pas parlé du protestantisme. Pour résumer, moi, je suis d'une famille juive. Hein, au départ, on était certainement des bons juifs jusqu'à la guerre. Et puis après la guerre, ma mère nous a fait tous baptiser. Donc on a tous les quatre, étaient mes trois sœurs et moi, on a été élevés dans la religion catholique. Et quand je suis devenu papa, j'ai refusé absolument. Donc moi, j'étais convaincu des bienfaits du scoutisme. Et j'ai refusé absolument l'idée de les mettre aux scouts et guides de France, parce que d'abord les garçons et les filles étaient séparés. Et en plus, là où on habite, en banlieue ouest, il n'y a que les scouts d'Europe. Alors les scouts d'Europe, c'est facho et compagnie. Et moi, c'était hors de question. Et c'est une voisine et amie qui nous a dit, il y a les protestants, il y a les éclaireurs unionistes. Donc nos trois enfants ont été aux éclaireurs unionistes, et en particulier... ma fille journaliste est tombée dedans et elle n'en est toujours pas sortie. À 45 ans, elle est toujours dedans. Et du coup, j'ai découvert un peu la tolérance et l'ouverture d'esprit des protestants par rapport à l'église catholique traditionnelle, coincée du cul. Hein, et mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire Faut pas que ça se sache. Alors les protestants, pas du tout.
Ouais.
Les protestants, c'est on pose sur la table et on en discute. Comme dans Sex Education, où la maman dit « You want to talk about it ?»
Exactement. Ouais. Mais pourtant, ta fille a eu des mots très durs envers toi quand elle a découvert que t'étais en relation avec Benoît.
Ma fille ?
Ouais, c'est ça, non ?
Oui. Ah oui, oui, mais je crois qu'elle était sous le choc.
Tu as vécu comment, toi ?
Quoi donc ?
Qu'elles te disent, ça ?
Très mal. Très mal, d'ailleurs, on est resté pratiquement 6 mois sans se parler. Et puis, bon, il y a eu un moment où... c'est moi qui ai appelé pour demander quelque chose ou pour la féliciter d'un article qu'elle avait écrit. Et puis, bon, la conversation a repris.
Vous en avez jamais reparlé, tous les deux ?
Non. Mais j'ai du mal à en parler avec eux. J'ai du mal à en parler avec eux parce que je sais que ça les gêne. Ce qui les gêne, en fait, c'est pas tellement le fait que je vive avec un mec. Ce qui les gêne, c'est que ce mec soit plus jeune qu'eux. C'est ça, le problème. Et Benoît, c'est, s'il a autant de réticence et qu'il n'a pas du tout envie de rencontrer mes enfants, c'est pas parce que ça le gêne, c'est parce que mes enfants ont pratiquement l'âge de ses parents, à lui. Alors que le contraire n'est pas, est totalement différent, c'est-à-dire je suis reçu dans sa famille. Je suis reçu et accepté dans sa famille. Sa famille trouve ça tout aussi bizarre, mais respecte totalement. Et c'est des gens qui sont extrêmement tolérants, ouverts d'esprit. Et donc, c'est pas le fait qu'ils soient homosexuels qui les dérange, c'est pas le fait qu'il ait ce style de vie bizarre, ce qui les dérangerait si jamais ça les dérangeait. C'est le fait que j'ai l'âge de ses grands-parents plus que de ses parents.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes enfants s'ils écoutent ce podcast par rapport à ce sujet-là?
Ah ben j'ai bien l'intention de leur dire oui, vous écoutez le podcast, oui.
Donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Bah d'abord que je les aime, hein, que même si j'ai du mal à le dire, leur dire que je les aime, je leur dire que c'est comme ça, que c'est la vie, que la vie est pleine de surprises, et que je comprends qu'ils m'en veuillent, que moi j'en veux à personne, mais que maintenant j'ai atteint l'âge où je me dis, bon, il me reste encore 10, 12, 15 ans à vivre pleinement ma vie, et j'ai envie de le vivre à fond, à fond, à fond, à fond. Mais que de toute façon, ils auront une vie après moi. Moi, dans 15 ans, je tire le rideau. Même si je suis encore physiquement là, dans 15 ans, j'aurai 90 ans. Bon, je serai vraiment à la fin du spectacle. Mais eux, ils seront en pleine maturité. Et donc, il faudra qu'ils continuent à vivre avec ça. Mes petits-enfants, il faudra bien un jour qu'on leur dise.
Ils sont pas au courant aujourd'hui?
Non, ils sont pas au courant, mais enfin, l'aîné a 8 ans, 8 ans et demi.
Bon, c'est encore petit.
Je crois qu'ils ont parfaitement capté que papy et mamie étaient plus ensemble. Mais on n'en parle pas de manière explicite. Maintenant, d'un autre côté, je ne sais pas non plus ce que mes enfants leur ont dit. De même que je ne sais pas ce que mes enfants se disent entre eux. On a un WhatsApp familial où tout le monde est au courant de tout, mais eux-mêmes, entre eux, ils ont un WhatsApp...
Bien sûr, et heureusement.
Fratrie. Et donc, je sais que mes filles se parlent pratiquement tout le temps. Elles sont très proches l'une de l'autre, elles sont très complices, et je prie le ciel que ça dure. Mon fils, lui, est un petit peu à part parce qu'il vit à Berlin. Aujourd'hui, il a une nationalité allemande. Alors, je me dis que les grands-parents, mes grands-parents juifs et français doivent se retourner dans leur tombe. Mais il est de nationalité allemande.
Le temps a passé.
Sa copine est absolument charmante. Elle est ravissante, en plus. Mais je crois qu'ils ne veulent pas d'enfants. Donc... on n'en parle pas, mais je pense qu'à 40 ans, s'il avait voulu des enfants, il les aurait déjà.
Tout à l'heure, tu disais que tu avais du mal à dire « je t'aime » à tes enfants,
oui.
C'est ça?
J'ai toujours eu du mal à dire « je t'aime » à tout le monde. Il n'y a vraiment qu'à Benoît où maintenant, je peux le dire.
Pourquoi?
Parce que maintenant, je peux. Parce que maintenant, le comment dirais-je, en anglais, « self-respect ».
L'amour de soi, le respect?
Non, la pudeur.
Ah.
Je ne le pouvais pas le dire de manière explicite, par pudeur, par crainte d'exhiber mes sentiments, par crainte de me dévoiler, ça faisait partie de la construction des murs, je dirais, entre mes différentes vies. Aujourd'hui, tout ça, ça a tombé. Donc,
tu peux dire je t'aime à tes enfants, c'est pas pareil.
Oui, bien sûr, mais l'occasion
ne se présentent pas, on se voit pas assez souvent. Mais c'est vrai que je leur...
Tu peux leur dire n'importe quand.
Je peux leur dire n'importe quand, mais je leur ai écrit.
Ok.
J'ai écrit une longue...
Tu as cette histoire avec ton père. Pardon, je te coupe.
Oui, peut-être. Je fais partie d'une génération, en bon boomer. D'abord, on ne dit pas, on cache ses sentiments. Ensuite, fait partie de la génération, un garçon ça pleure pas, un garçon ça n'est pas sensible, un garçon c'est pas romantique, tu laisses ça aux bonnes femmes. Non, un mec c'est viril, un mec ça ne dit pas ses sentiments. Bon, dire je t'aime c'est un aveu de faiblesse quand même. Et il m'a fallu, bon ben c'est dit, il m'a fallu 70 ans pour arriver à briser ça. À le déconstruire, comme on dit aujourd'hui.
Et Benoît, il t'apprend à faire ça, alors ?
Oui, complètement.
À dire je t'aime ?
Complètement. Donc, on se le répète tout le
comment
temps.
Comment traiter tes sentiments, tes émotions et tout ? Putain, c'est cool, hein, 70 balais, que t'as réussi à trouver ce chemin-là.
Et c'est pour ça, je suis vraiment heureux, là. Et je trouve ça génial.
Tu disais que t'avais écrit une longue lettre à tes enfants, juste avant que je te coupe ?
Oui. Une longue lettre sur le WhatsApp familial, pour expliquer. Expliquer tout. Expliquer que j'étais homosexuel depuis que j'étais tout petit et que j'avais réussi à me le cacher pendant des années et puis que c'était revenu et qu'aujourd'hui, c'est pas que je m'entends plus avec leur maman, mais c'est qu'on a nos routes se sont séparées et que pour ce qui me reste à vivre, je veux le vivre pleinement. Physiquement, intellectuellement, mais qu'ils restaient mes enfants et que je les aimais.
Ils en est quoi ?
J'ai pas eu de retour de mes enfants à cette lettre. J'ai eu un retour de ma femme qui m'a dit je l'ai reçu, je l'ai lu. Point. Voilà. J'ai pas eu de commentaire. Les commentaires, je les ai eus par le biais d'amis communs, donc des amis à moi qui sont très proches d'elle. Et c'est mon ami Philippe qui m'a dit, qui m'a fait part de sa réaction. Il m'a dit, elle ne t'en veut pas d'être homosexuelle, elle t'en veut d'avoir menti pendant 40 ans. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas non plus le dire.
Bien sûr. Je crois qu'elle a le droit de t'en vouloir. Tout en comprenant intellectuellement pourquoi tu l'as fait, quoi, tu vois, pourquoi t'as menti. Mais une autre époque.
Oui, bon, c'est vrai que c'est une autre époque. J'ai vécu la transition d'une époque à l'autre.
Ouais.
Et maintenant, je plonge à deux pieds dans le 21e siècle.
Avec ton super t-shirt et ta magnifique bretelle.
Oui, les bretelles, c'est du confort. Du confort, ça évite de remonter son pantalon toutes les 5 minutes. Il tient tout seul.
Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé dire dans ce podcast sur lequel tu t'es pas amené, Jean-Jacques ?
Non, je crois que j'ai vraiment tout dit. Je crois que ça fait partie de la déconstruction des murs que j'avais construits autour de moi. Et je suis très content de l'avoir fait, surtout.
Ah bah. Ravi d'avoir pu participer à la déconstruction de tes murs. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire de daron et puis de mec aussi, parce que finalement il y a de ça aussi, quoi.
Oui, oui.
C'est très précieux comme parole.
Merci. Je te remercie.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.